Remerciements. Bien que de nombreuses traductions de l'Iliade aient été consultées durant la préparation de ce roman, je tiens à remercier plus particulièrement les traducteurs suivants. Robert Fagels, Richmond Latimore, Alexander Pope, George Chapman, Robert Fitzgerald et Allen Mandelbaum. Les beautés de leurs traductions sont multiples et leur talent dépasse ma compréhension. En ce qui concerne les œuvres inspirées par l'Iliade, en vers comme en prose, ma reconnaissance va à W.H. Auden, Robert Browning, Robert Graves, Christopher Logg, Robert Lowell et Alfred Lord Tennyson. Dans le registre des recherches et commentaires sur l'Iliade et sur Homère, je suis reconnaissant à Bernard Knox, Richmond Latimore, Malcolm M. Wilcock, A.J.B. Weiss, F.H. Stubbings, C. Kerenyi et autres scoliastes trop nombreux pour être cités. Pour leurs commentaires pleins d'intelligence sur Shakespeare et sur le Caliban upon Setebos de Browning, je remercie Harold Bloom, W.H. Auden et les éditeurs de la Norton Anthology of English Literature. Pour mieux apprécier l'interprétation que fait Auden de Caliban upon Setebos et d'autres aspects de Caliban, je recommande l'ouvrage d'Edward Mendelssohn intitulé Later Auden. Les aperçus de Manmuth sur les sonnets de Shakespeare sont en grande partie inspirés de The Art of Shakespeare's Sonnets, le merveilleux livre d'Hélène Wendler. La plupart des commentaires d'Orfudio sur l'œuvre de Marcel Proust sont inspirés par l'ouvrage de Roger Chatuc, Proust's Way, A Field Guide to In Search of Lost Time. Pour les lecteurs qui souhaiteraient, à l'instar de Manmuth, s'immerger dans des études shakespeariennes, je recommande Shakespeare, The Invention of the Human, par Harold Bloom, Me and Shakespeare, Adventures with the Bard, par Hermann Golob, et Shakespeare, A Life, par Park Onan. Pour leur carte détaillée de Mars, avant terraformation, je remercie de tout cœur la NASA, le Jet Propulsion Laboratory et Uncovering the Secrets of the Red Planet, l'ouvrage de la National Geographic Society, publié sous la direction de Paul Raeburn, avec un avant-propos et des commentaires de Matt Golombek. La revue scientifique américaine m'a été d'une aide précieuse, en particulier les articles suivants. The Hidden Ocean of Europa, par Robert T. Pappalardo, James W. Head et Ronald Grillet, octobre 1999. Quantum Teleportation, par Anton Zeilinger, avril 2000. Et How to Build a Time Machine, par Paul Davis, septembre 2002. Finalement, mes plus vifs remerciements à Clee Richson qui m'a montré comment construire chez soi une fournaise pourvue d'un cubilo en bois. Note de l'auteur. Lorsque mon frère cadet et moi sortions nos petits soldats du coffre à jouets, nous mélangions sans difficulté les bleus et les gris de la guerre de sécession avec les GI en kaki de la Seconde Guerre mondiale. J'aime à croire en une manifestation précoce de ce que Keats appelait « capacité négative ». Notre coffre contenait aussi un viking, un cowboy, un indien et un centurion romain armé de grenades, mais nous savions qu'ils appartenaient à un commando temporel. Certaines anomalies exigent ce que Hollywood appelle des éclaircissements complémentaires. En ce qui concerne Ilium, toutefois, je me suis efforcé à un minimum de cohérence. Les lecteurs anglophones qui, comme moi, se sont fait les dents sur la merveilleuse traduction de l'Iliade signée Richmond Latimore, remarqueront qu'Hector, Achilleus et Aias sont respectivement devenus Hector, Achille et Ajax, le grand comme le petit. Je me range sur ce point à l'opinion de Robert Fagels, auteur d'une nouvelle traduction en 1990, selon qui ces graphies latinisées, quoique plus éloignées du grec originel, qui voyait Hector s'opposer à Achilleus et les Achaïens aux Troyens, sont préférables aux graphies plus fidèles qui évoquent le bruit émis par un chat recrachant ses poils. Comme le souligne Fagels, personne ne peut prétendre à une parfaite cohérence et la lecture est plus aisée lorsque nous adoptons, à l'instar des poètes anglais, une graphie latinisée voire anglicisée pour les noms des héros et des dieux. Seule exception à cette règle, encore une fois d'accord avec Fagels, j'ai préféré Odysseus à Ulysse et Athénée à Minerve. Dans sa splendide traduction versifiée de l'Iliade, Alexander Pope se sentait en droit de montrer Jupiter en train de passer un savon à Arès et non à Mars, mais ma capacité négative y renacle. Parfois, semble-t-il, il faut se limiter au bataillon kaki. Nota bene, les lecteurs qui, comme moi, ont besoin d'une feuille de match pour trier les dieux des déesses et les héros des autres personnages, sont renvoyés au générique de fin. Remerciements du traducteur. Je tiens tout d'abord à remercier Dan Simmons, dont les livres sont aussi instructifs que captivants. Celui-ci m'a amené à dégager une étagère pour y ranger les ouvrages de référence acquis durant sa traduction, qui ont rejoint le manuel de conduite d'un bulldozer Caterpillar consulté lors de la traduction de L'Échiquier du Mal, l'intégrale des nouvelles d'Ernest Hemingway dévorée lors de celle des Forbans de Cuba, etc. Ad infinitum et ad nauseam. Il existe plusieurs traductions françaises de l'Iliade. Ma principale référence fut celle de Paul Mazon, actuellement disponible aux éditions Folio. Bien plus précieux se révéla mon vieil exemplaire fatigué de la même traduction, publié en 1965 au livre de poche et lu en classe de troisième, avec son indispensable index des personnages et des lieux établis par René Langumier. J'ai suivi Mazon pour la graphie des noms propres, sauf en ce qui concerne Odysseus, conformément aux vœux de Dan Simmons. J'ai également consulté la traduction de Le Comte de Lille, qui préfère la graphie archaïque dont Dan Simmons décrit plus haut les charmes, laquelle est disponible sur la toile à l'adresse suivante http://philoctetes.free.fr/homereille.htm. Tout traducteur digne de ce nom se doit d'acquérir une bibliothèque shakespearienne en langue française. Je remercie Jean-Claude Duniac d'avoir suppléé ma défaillance sur ce point, en me prêtant son édition du Barde à la Pléiade, ainsi que The Illustrated Stratford Shakespeare, Chancellor Press. Pour ce qui est des sonnets, je me suis référé à la traduction de Jean Malaplate, disponible au livre de poche. En ce qui concerne la tempête, à la traduction de Pierre Léris chez G.F. Flammarion. Parmi mes autres livres de chevet ont figuré Un amour de Swann de Marcel Proust et Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov, traduit par Gilles Chanin avec la collaboration de Jean-Bernard Blandenier et sous la supervision de l'auteur, tous deux chez Folio. En ce qui concerne Ulysses de Tennyson et Caliban upon Setebos de Browning, je n'ai pu en trouver aucune traduction française et j'ai dû mettre moi-même la main à la pâte, ce pourquoi j'implore l'indulgence du lecteur. La citation d'Horace dans le chapitre 23 a été traduite en français par le scoliaste Henri Tournier et figure sur un merveilleux site baptisé Les Jardins de Lucullus. http://membre.lycos.fr/malsnectai/epodes.htm. Pour ce qui est de la mythologie, j'ai tiré de précieuses informations du dictionnaire de la mythologie grecque et romaine de Pierre Grimal, Presse universitaire de France, que j'ai emprunté à ma médiathèque préférée, justement baptisée Odysseud, je n'invente rien. Un extraordinaire ouvrage est venu assister mon imagination visuelle, L'âge de bronze volume 1, Un millier de navires, une bande dessinée d'Eric Schanauer, publiée en France par les éditions Aquileos et traduite en français par l'énigmatique Achille, S entre parenthèses. Le lecteur anglophone est renvoyé au site d'Eric Schanauer pour des aperçus sur cette épopée graphique en cours d'élaboration. http://age-of-bronze.com. Venons-en à la science. J'ai passé nombre d'heures sur la toile en quête d'éclairage scientifique et je dois remercier mon éditeur, Gérard Klein, pour son regard d'aigle qui a épargné au lecteur maintes bourdes et erreurs. Celles qui subsistent sont de ma seule responsabilité. Deux livres m'ont aidé à compléter mes notions d'aréographie. À la conquête de Mars par Olivier de Goursac, Larousse, stupéfiante feuille de route pour l'exploration de la planète rouge, et Sur Mars par Pierre Lagrange et Hélène Huguet, EDP Sciences, qui n'est rien moins qu'un guide de voyage sur la même planète. Grâce à eux, j'ai suivi sans peine les aventures de Manmuth et Orfu au pays des PHV. Quant à l'ouvrage du National Geographic mentionné par Dan Simmons, j'ai pu le consulter, lui aussi, grâce à Odysseud. Terminons par le plus étonnant. Quand on traduit un roman de science-fiction, comment faire pour rendre en français la description d'un moulage de bronze tel qu'on le pratiquait durant l'âge du même nom, CF chapitre 8. Mes plus vifs remerciements aux artisans de la borne qui ont eu la bonne idée de faire la même chose qu'Anna et ses amis et de le raconter sur la toile. http://la-borne.com/fifta. Jean-Daniel Breck, février 2004. Vous venez d'écouter Ilium de Dan Simmons, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck, lu par Mathieu Dahan. Une production d'Audible Studios.